S'il y avait eu des arbres, le jardin du palais aurait pu être un havre de relative fraîcheur. Mais les plus hauts végétaux n'étaient que de pauvres haies ou des massifs taillés pour représenter des chevaux au galop, des plantigrades en train de faire des acrobaties ou d'autres absurdités de ce genre. Les ravages de l'art topiaire. En manches de chemise et lestées de seaux d'eau, des jardiniers couraient d'une horreur à une autre avec le futile espoir de sauver leur chef-d'œuvre. Depuis longtemps, ils avaient fait une croix sur les parterres de fleurs, les remplaçant par des pelouses qui agonisaient aussi.
« Cette chaleur est affreuse !»
souffla Elrond. Sortant de la manche de sa veste de soie jaune un mouchoir de dentelle, il se tamponna le visage, puis jeta négligemment le carré de tissu pourtant précieux. Un serviteur en livrée or et rouge accourut, ramassa le mouchoir et repartit aussitôt vers sa place. Un autre vint donner un nouveau mouchoir au roi, afin qu'il le glisse dans sa manche pour remplacer le précédent. Bien entendu, Elrond ne remercia pas les deux domestiques, dont on pouvait douter qu'il ait remarqué l'existence.
« Ces jardiniers parviennent en général à tout garder en vie jusqu'au printemps, mais je perdrai peut-être quelques plantes cet hiver, parce qu'il semble que nous n'en aurons pas, justement. Ces végétaux supportent mieux le froid que la sécheresse. Vous ne trouvez pas qu'ils sont superbes, très cher ?»
Oint par la lumière, roi et défenseur de la Madicia et gardien de la porte sud, Elrond n'était pas aussi beau que le prétendaient les rumeurs. Lors de leur première rencontre, des années plus tôt, Morgaz l'avait d'ailleurs soupçonné d'être lui-même à l'origine de cette légende. S'il avait bien des cheveux noirs denses et ondulants, son front se dégarnissait, son nez était un rien trop long et ses oreilles auraient gagné à être plus discrètes. Et pris dans sa totalité, il donna une impression de mollesse.
« Un jour, » songea Morgaz, « il faudra que je demande, la porte sud de quoi ?»
Agitant délicatement son éventail, Morgaz étudia une des réalisations des jardiniers. On eût dit trois géantes nues en train de se battre avec des serpents tout aussi démesurés.
« De vrais chefs-d'œuvre, oui, »
mentit la reine d'Andorre. Quand on venait mendier de l'aide, il fallait savoir laisser son franc-parler à l'entrée.
« N'est-ce pas ? Mais on dirait que le devoir m'appelle. Des affaires urgentes, semble-t-il. »
Une dizaine d'hommes aux vestes aussi colorées que les défunts parterres de fleurs, sinon plus, venaient d'apparaître sur les marches du petit escalier de marbre au bout de l'allée, et ils attendaient à côté d'une série de colonnes cannelées qui ne soutenaient rien.
« À ce soir, ta chère. Nous reparlerons de vos graves problèmes et de ce que je peux y faire. »
Elrond s'inclina au-dessus de la main de Morgaz, s'arrêtant juste avant de la lui baiser. La reine fit une révérence, murmura les inepties d'usage et regarda le roi s'éloigner, suivi par la meute des domestiques qui ne le quittaient jamais, à l'exception d'un seul, cependant. Son hôte parti, Morgaz agita plus violemment son éventail, car le souverain, même s'il transpirait à grosses gouttes, se piquait de ne pas être affecté par la chaleur. Donc, en sa présence, pas question de se ventiler plus que de raison. Puis la reine partit en direction de ses appartements. C'est, par la bonne grâce d'Elrond, comme la robe bleu pâle qu'elle portait. Un cadeau, celle-là. Ayant désormais plus que de la méfiance envers les décolletés plongeants, Morgaz avait insisté pour un rat du cou des plus stricts. Le domestique restant la suivit à distance. Bien entendu, Talanvor se plaça sur ses talons. Toujours vêtu de la veste verte grossière qu'il portait pendant le voyage, le jeune officier ne se séparait jamais de son épée. Comme s'il avait pu redouter une attaque dans le palais de Serenda, à moins d'une lieue d'Amador. La reine aurait volontiers ignoré son chevalier servant, mais comme d'habitude, il ne l'entendit pas de cette oreille.
« Nous aurions dû aller au Gealdan, Morgaz. À Jeanna. »
Consciente d'avoir laissé certaines choses aller trop loin, Morgaz se retourna dans un bruissement de soie et riva sur Talanvor un regard brillant de colère.
« Pendant le voyage, la discrétion était de mise. Mais ici, tout le monde sait qui je suis. Rappelle-le-toi aussi, et témoigne à ta reine le respect qui lui est dû. À genoux !»
À la grande indignation de Morgaz, Talanvor ne réagit pas.
« Êtes-vous vraiment ma reine, Morgaz ? »
demanda-t-il à voix basse, afin que le domestique n'entende pas. Mais ses yeux aussi brillaient, de colère, certes, mais surtout de désir, si puissamment que la reine faillit en reculer d'un pas.
« Je ne vous abandonnerai pas de ce côté de la mort, Morgaz. Mais vous, qu'avez-vous renié en livrant le royaume d'Andorre à Gabriel ? Quand vous l'aurez reconquis, je m'agenouillerai, et vous pourrez me faire couper la tête si ça vous chante. Jusque-là, nous aurions dû aller au Gealdan. »
Depuis que la reine avait découvert qu'aucune maison noble andorienne ne la soutiendrait, ce jeune idiot aurait été prêt à mourir en combattant l'usurpateur. et jour après jour, semaine après semaine, après qu'elle eût décidé de quérir l'aide d'un royaume étranger, il était devenu plus insolent et plus indiscipliné. Si elle demandait la tête de Talanvor à Ilron, il accéderait à sa requête sans poser de questions. Mais certainement pas sans arrière-pensée. Morgaz était une mendiante ici, et elle ne devait surtout pas demander une faveur de plus que le strict nécessaire. De plus, sans Talanvor, elle n'aurait pas été ici, mais à Kaemlyn, toujours prisonnière, et pire que ça même, du seigneur Gaebril. S'il conservait la tête sur les épaules, Talanvor le devait à ces deux raisons, et rien de plus. L'armée de Morgaz montait la garde devant les portes sculptées de ses appartements. Une sacrée équipe, son armée. Le visage rubicon, Basil Gil tentait en vain de dissimuler sa calvitie naissante en tirant sur son crâne une pathétique mèche de cheveux. Sa tunique de cuir ornée de disques de métal menaçait d'exploser à cause de sa bedaine, et il arborait sur la hanche une épée qu'il n'avait pas dû toucher pendant 20 ans, avant de se lancer dans cette aventure. Costaud et endurci, Lamgwin avait des paupières tombantes, qui lui donnaient un air perpétuellement endormi. Lui aussi portait une épée, mais son nez cassé et ses cicatrices indiquaient qu'il avait plutôt l'habitude d'utiliser ses poings ou de manier un gourdin. Un aubergiste et un bagarreur des rues. À part Talanvor, voilà les troupes que Morgaz avait pu lever afin de reprendre son bien à Gaebril. Les deux hommes se fendirent de révérences maladroites. Les ignorant, Morgaz entra chez elle et claqua la porte au nez de Talanvor.
« Le monde !» clama-t-elle. « Serait un endroit bien plus agréable si les hommes n'existaient pas. »«
Bien plus vide, surtout, »
dit la vieille nourrice de la reine, assise sur un fauteuil près de la fenêtre couverte d'un rideau de velours de l'antichambre. Présentement penchée sur un tambour à broder, son chignon gris oscillant doucement, la quasi-squelettique Lini avait l'air beaucoup plus frêle qu'elle l'était en réalité.
« Je suppose qu'Aelron ne s'est pas montré plus coopératif aujourd'hui. Où est Talanvor, mon enfant ?» Tu dois apprendre à ne pas te laisser taper sur les nerfs par les hommes. Quand tu t'énerves, ça te gâche le teint. »
Bien qu'ayant été depuis la nourrice d'Elaine, Lini refusait toujours d'admettre que Morgane avait largement dépassé l'âge d'être tensée comme une fillette.
« Aelron a été charmant, » dit Morgaz sur ses gardes.
La troisième femme présente dans la pièce, agenouillée devant un coffre d'où elle sortait des draps pliés, eut un soupir sans équivoque. Non sans effort, Morgaz parvint à ne pas la foudroyer du regard. Bréane était la compagne de Lamgwin. Petite, la peau hâlée par le soleil, elle suivait son homme partout. Mais elle était du Caerien, et à ce titre, elle n'en faisait pas mystère, Morgaz ne représentait rien pour elle.
« Encore un jour ou deux, »
continua la reine.
« Et j'espère bien lui arracher un serment. Aujourd'hui, il a enfin admis que j'ai besoin de soldats étrangers pour reprendre Kaemlyn. Dès que Gaebril en aura été chassé, les nobles reviendront vers moi comme un troupeau de moutons. »
En tout cas, elle l'espérait. Si elle était en Amadicia, elle le devait à Gaebril, qui, en la manipulant, l'avait incité à maltraiter ses plus fidèles alliés et amis.
« Un cheval très lent n'atteint pas toujours la destination du voyage, »
cita Lini, toujours concentrée sur son ouvrage. La nourrice adorait les vieux dictons, en particulier ceux qu'elle inventait selon ses besoins, soupçonnait Morgaz.
« Celui-ci l'atteindra, »
insista la reine. Talanvor avait tort au sujet du Gael'dan. Selon Aelron, ce pays était au bord du chaos à cause du prophète dont tous les domestiques parlaient à voix basse. Un illuminé qui annonçait l'avènement du dragon réincarné.
« Bréan, je boirais bien un peu de punch. »
La femme se contenta de lever la tête, l'œil morne.
« S'il te plaît. »
Même ainsi, Bréan fit le service en tirant la tête. Le mélange de vin et de fruits se révéla délicieusement rafraîchissant, et la reine prit un grand plaisir à presser le gobelet d'argent contre son front. Pour rafraîchir les boissons, entre autres choses, Aelron faisait venir de la neige et de la glace des montagnes de la brume. Pour approvisionner le palais, des caravanes entières allaient et venaient sans cesse. Lini accepta elle aussi un gobelet.
« Ah, et au sujet de Talanvor ?»
demanda-t-elle après avoir bu une gorgée.
« Fais attention à ce que tu dis, Lini.
Il est plus jeune que vous, certes, et alors ?»
lança Bréan. Bien entendu, elle s'était également servi un gobelet. Quelle effronterie! Quoi qu'elle ait été au Caerien, ici, elle aurait dû se comporter comme une servante.
« Si vous le voulez, prenez-le. Lamgwin dit qu'il vous vénère. Et je l'ai vu vous regarder.
Ha !»
Bréan eut un rire rauque.
« Il ne vous refusera pas.
Les Kairieniens étaient répugnants, tout le monde le savait. Mais la plupart gardaient secrètes leurs mœurs dissolues. Morgaz allait chasser Brian de chez elle quand quelqu'un frappa à la porte. Sans attendre qu'on l'y invite, un homme aux cheveux blancs, sec comme un coup de trique, entra et referma le battant derrière lui. Sur la poitrine de sa cape blanche s'affichait un soleil rougeoyant. Morgaz avait espéré éviter les fils de la lumière tant qu'elle n'aurait pas signé un pacte avec Aelron. Soudain, la fraîcheur du vin lui sembla passer directement dans la moelle de ses os. Où étaient Talanvor et les autres pour que cet homme puisse si aisément faire intrusion chez elle? Ses yeux noirs rivés sur la reine, le visiteur se fendit d'une révérence des plus sommaires. Très âgé, la peau parcheminée, cet homme restait dur comme l'acier.
« Je suis Pedron Nihal, »
annonça-t-il. « Pas n'importe quel fils de la lumière, mais le seigneur général en personne. »
« Ne craignez rien. Je ne viens pas vous arrêter. »
Morgaz se dressa sur ses ergots.
« M'arrêter? Sous quelle charge? Je suis incapable de canaliser le pouvoir. »
Dès qu'elle eut prononcé ces mots, Morgaz faillit en claquer la langue d'exaspération. Elle n'aurait pas dû mentionner le pouvoir. Se mettre ainsi sur la défensive trahissait à quel point elle était bouleversée. Cela dit, elle venait d'énoncer la stricte vérité. Enfin presque. Pour sentir la source authentique une fois, elle devait s'y reprendre à 50 reprises, puis essayer 20 fois de s'unir au Saïdar afin d'en puiser un pathétique ruisselet. Vérine, une sœur marron, lui avait dit jadis que la Tour Blanche n'avait nul besoin de la retenir pour lui apprendre à utiliser son maigre talent en toute sécurité, car elle ne risquait rien de toute façon. Bien entendu, la Tour l'avait retenue quand même. Cela dit, en Amadicia, même les plus minables aptitudes à canaliser étaient proscrites, avec la mort pour châtiment. La bague au serpent qu'elle portait à un doigt, et qui avait tant fasciné Aelron, sembla soudain chauffer au point d'en scintiller.
« Formé par la Tour, »
murmura Nihal.
« C'est tout autant interdit. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour vous arrêter, mais pour vous aider. Renvoyez vos servantes et nous parlerons. »
Se sentant comme chez lui, il tira un fauteuil et s'assit, faisant passer sa cape par-dessus le dossier.
« Avant que les servantes se retirent, je prendrai bien un peu de punch. »
Aux grandes dames de Morgaz, Brehan, les yeux baissés et le visage de pierre, apporta docilement un gobelet au seigneur général. La reine tenta un coup de force afin de reprendre le contrôle des événements.
« Mes compagnes resteront, maître Nihal, »
lança-t-elle. Pas question de flatter l'ego de cet homme en utilisant son grade. Hélas, Nihal parut s'en ficher comme d'une guigne.
Qu'est-il arrivé à mes hommes qui montaient la garde dehors? Si on leur a fait du mal, je vous en tiendrai pour responsable. Et pourquoi pensez-vous que j'ai besoin de votre aide?
Vos hommes sont sains et saufs,
fit distraitement Nihal tout en humant son gobelet de ponche.
Vous croyez qu'Aelron vous donnera ce que vous demandez? Vous êtes très belle, Morgaz, et le roi aime les blondes. Chaque jour, il vous paraîtra plus près de signer le pacte que vous souhaitez. Mais sans pourtant franchir le pas. Jusqu'à ce que vous décidiez peut-être qu'un certain sacrifice lui donnera l'impulsion requise. Mais quoi que vous lui donniez, il ne se décidera jamais, croyez-moi. Les hordes du prétendu prophète ravagent le nord de la Madicia. À l'ouest se trouve le Tarabon, avec une guerre civile qui tourne à la mêlée généralisée, des bandits dévoués aux dragons réincarnés, enfin... à l'imposteur qui proclame l'être, et des rumeurs terrifiantes au sujet des Aes Sedai et du dragon en question. Bref, tout ce qu'il faut pour effrayer Aelron. Vous allouez des soldats. Il vendrait son âme pour avoir 10 nouvelles recrues pour chaque homme actuellement enrôlé dans son armée. Et même un rapport de 10 pour 2 le comblerait. Moi, si vous me le demandez, je peux envoyer à Kemlin 5 000 fils de la lumière, avec vous à leur tête. »
Dire que Morgaz était sonné aurait été un euphémisme. Avec la dignité idoine, enfin elle espérait, elle approcha d'un fauteuil en face de celui de Nihal et se laissa tomber dedans avant que ses jambes se dérobent sous elle.
« Pourquoi m'aideriez-vous à chasser Gabriel ?»
Inutile de tergiverser. À l'évidence, Nihal savait tout, sans doute parce qu'il avait placé des espions parmi les domestiques d'Aelron.
« Je n'ai jamais laissé les capes blanches n'en faire qu'à leur tête dans mon royaume. »
Nihal tika. Les fils de la lumière préféraient qu'on ne les désigne pas par ce nom.
Galbril, votre amant est mort, Morgaz. Le faux dragon Randaltor a ajouté Kemlyn à la liste de ses conquêtes.
Lini poussa un petit cri, comme si elle s'était piquée. Mais Nial ne daigna pas tourner la tête vers elle. Bouleversé, Morgaz dut serrer très fort un accoudoir de son fauteuil, afin de ne pas porter une main à son cœur. Et si le gobelet qu'elle tenait dans l'autre n'avait pas reposé sur l'accoudoir d'en face, elle aurait renversé du punch sur le tapis. Gabriel, mort ? Il l'avait abusé, transformé en gourgandine, et dépouillé de son autorité pour opprimer en son nom le pays qu'elle aimait tant. Pour finir, il s'était proclamé roi d'Andorre, alors que le royaume n'avait jamais connu que des reines. Après tant d'infamies, comment pouvait-elle éprouver ne serait-ce que l'ombre d'un regret à l'idée qu'elle ne sentirait plus jamais le contact de ses mains sur sa peau ? De la folie. De quoi la pousser à croire qu'il avait utilisé sur elle le pouvoir de l'unique ? Mais bien entendu, c'était impossible. Et maintenant, Altor tenait Kemlyn ? Voilà qui pouvait tout changer. Elle l'avait rencontré naguère. Un jeune paysan de l'Ouest terrorisé, qui faisait de son mieux pour se comporter convenablement devant sa reine. Cela dit, il portait à la hanche l'épée au héron d'un maître de la lame. Et Elaïda s'était méfiée de lui.
« Nial, pourquoi dites-vous faux dragon ?»
Puisque ce type l'appelait par son nom, il pourrait très bien se passer qu'elle lui donne du maître.
« Comme l'annonçaient les prophéties du dragon, la pierre de Théar est tombée. Les hauts seigneurs de Théar eux-mêmes ont reconnu qu'il est bel et bien le dragon réincarné. »
Nial eut un sourire moqueur.
« Partout où il est apparu, il y avait des Aes Sedai à sa traîne. Elle se charge de canaliser pour lui, croyez-moi. Altor est une marionnette de la tour. J'ai des amis un peu partout. »
Il fallait entendre des espions.
« Et ils m'ont rapporté, preuve à l'appui, que la tour s'est également servie du précédent faux dragon nommé Loghain. L'ambition lui étant montée à la tête, les Aes Sedai ont dû être obligés de... disposer de lui. »
« Je ne vois pas où sont les preuves que c'est vrai, »
dit Morgaz d'un ton très assuré. Sur le chemin d'Amador, elle avait entendu ces rumeurs au sujet de Loghain, mais justement, ce n'était que des rumeurs.
« Croyez ce que vous voulez. Moi, je préfère la vérité à d'absurdes fantaisies. Le véritable dragon réincarné aurait-il agi comme ça ? Les hauts seigneurs l'ont acclamé, dites-vous. Combien en a-t-il fait pendre pour obtenir ce résultat ? Altor a laissé les Aiel piller la pierre, puis la capitale du Caerien. Il affirme que ce pays doit avoir un dirigeant, désigné par ses soins. Mais c'est lui qui détient le véritable pouvoir. Il affirme aussi qu'il faut une nouvelle tête couronnée à Kemlyn. Car pour lui, savez-vous que vous êtes morte ? On a mentionné la dame d'Aielin, si je ne m'abuse. Altor s'est assis sur le trône du lion, pour donner ses audiences. Mais il a dû le trouver trop petit, puisqu'il est conçu pour des femmes. Du coup, il l'a ajouté au butin de ses conquêtes et remplacé par son propre trône, installé dans le hall d'honneur de votre palais. Évidemment, tout ne s'est pas bien passé pour lui. Certaines maisons andoriennes pensent qu'il est votre meurtrier, et depuis votre décès, votre popularité est nettement en hausse. Cela posé, il tient dans une main de fer la partie d'Andorre qu'il a conquise, se reposant sur ses aïeuls et sur une bande de brigands des terres frontalières que la tour a recrutés pour lui. Si vous pensez qu'il vous accueillera à bras ouverts à Kemlyn, prêt à vous rendre votre trône. »
Nial n'alla pas plus loin, mais le coup avait fait mouche. Dans l'ordre de succession, Daelin passait après Elaine, à condition que celle-ci soit morte sans enfant. Par la lumière. Elaine, était-elle encore en sécurité à la tour ? Comme tout ça était paradoxal. Si Morgaz en voulait aux Aes Sedai, c'était avant tout parce qu'elles avaient perdu pendant un temps la trace de la fille héritière. Du coup, elle avait exigé le retour de sa fille. Et comme nul n'avait le droit d'exiger quoi que ce soit de la tour, les choses s'étaient encore envenimées. Pourtant, en cet instant, elle espérait qu'Hélène était bien entre les mains des sœurs. Après être revenue à Tarvalon, sa fille lui avait écrit une lettre. Y en avait-il eu d'autres ? De l'époque où Gaebril la tenait sous son emprise, elle gardait des souvenirs très vagues. Mais Elaine était sûrement en sécurité. Bien sûr, elle aurait dû s'inquiéter aussi pour Gawain et pour Galad. La lumière seule savait où ils étaient, mais Elaine était son héritière. Et la paix du royaume reposait sur une succession tout en douceur. Avant de s'emballer, elle devait réfléchir calmement. tout ce que racontait Nial était cohérent, mais il en allait de même pour les mensonges bien ficelés, et le seigneur général devait être un maître à ce jeu-là. Elle avait besoin de faits. Qu'on la croie morte en Andorre n'avait rien d'étonnant. Pour échapper à Gabriel, à ceux qui l'auraient livrée à l'usurpateur ou qui se seraient vengés sur elle de ses exactions, elle avait dû quitter son royaume comme une voleuse. Si sa mort lui valait un regain de popularité, elle devrait en profiter lorsqu'elle reviendrait de l'autre monde.
« Je vais avoir besoin de temps pour réfléchir, »
dit-elle à Nial, « et de fait. »«
Bien entendu. »
Nial se leva souplement. Morgaz l'aurait bien imité, afin qu'il ne la domine pas ainsi, mais elle craignait que ses jambes refusent de la soutenir.
« Je reviendrai dans un jour ou deux. En attendant, je veux être sûr que vous soyez en sécurité. Elrond est tellement absorbé par ses soucis. Quelqu'un pourrait tenter de s'introduire chez vous afin de vous nuire. J'ai donc pris la liberté de poster quelques fils de la lumière ici, avec le consentement du roi, bien sûr. »
Depuis toujours, Morgaz entendait dire que les Cas Blanches étaient le vrai pouvoir en Amadicia. Eh bien, elle venait d'en avoir la preuve. Nial se montra un peu plus protocolaire qu'à son arrivée, gratifiant la reine d'un salut qui aurait pu convenir à un égal. Mais le fond de son message était clair. Elle n'avait pas le choix. Dès qu'il fut sorti, Morgaz se leva. Mais Bréane fut encore plus rapide qu'elle quand il s'agit de foncer vers la porte. Avant que l'une ou l'autre ait fait trois pas, le battant s'ouvrit à la volée pour laisser passer Talenvor, Baselgil et Lamgwyn.
« Morgaz !»
dit le jeune officier, dévorant sa reine du regard.
« J'ai eu peur que... peur !»
coupa-t-elle avec mépris. Décidément, il n'apprendrait jamais.
« C'est comme ça que tu me protèges. Un enfant n'aurait pas fait mieux. Mais au fond, c'est ce que tu es. »
Talenvor la regarda encore un instant, puis il se détourna et sortit, passant entre Basel et Lamgwyn.
« Ils étaient au moins 30, Majesté !»
dit l'aubergiste en se tordant les mains.
« Talenvor a voulu se battre. Il a tenté de vous prévenir, mais un type l'a assommé avec le pommeau de son épée. Le vieil homme a dit qu'il n'avait pas l'intention de vous faire de mal, mais qu'ils avaient uniquement besoin de vous. Et n'hésiterait donc pas à nous tuer. »
Basel regarda Lini, puis Bréane, qui étudiait Lamgwyn de la tête aux pieds afin de s'assurer qu'il n'était pas blessé. Et l'homme semblait tout aussi inquiet du bon état de santé de sa compagne.
« Ma reine, si j'avais pensé que nous aurions pu vous aider... Désolé, je vous ai mal servi. »«
Un médicament qui agit a toujours mauvais goût, »
murmura Lini.
« Surtout pour une enfant qui pique un caprice. »
Au moins, pour une fois, la nourrice avait fait en sorte de ne pas parler assez fort pour que tout le monde entende. Elle avait raison, et Morgaz le savait. Sauf pour le caprice, bien entendu. En tout cas, Basel semblait assez dévasté pour se réjouir d'une condamnation à mort.
« Tu m'as bien servi, Maître Gil. Un jour, je te demanderai peut-être de mourir pour moi, mais seulement si le jeu en vaut la chandelle. Nial désirait seulement me parler. »
Basel parut réconforté, mais Morgaz sentait toujours peser sur elle le regard de Lini. Ce médicament avait très mauvais goût, vraiment.
« Peux-tu demander à Talenvor de venir me voir ? Je voudrais m'excuser auprès de lui d'avoir parlé un peu trop rapidement. » « Quand on veut se faire pardonner par un homme, »
dit Bréane.
« Le meilleur moyen, c'est de l'entraîner dans un coin tranquille du jardin. »
Morgaz craqua. Avant de s'en apercevoir, elle eut lancé son gobelet sur l'insolente, souillant de ponche le tapis.
« Dehors !»
cria-t-elle.
« Sortez tous !»« Maître Gil, transmets mes excuses à Talenvor, ça suffira. »
Bréane lissa calmement le devant de sa robe mouillée, puis elle approcha lentement de Lamgwyn et lui prit le bras. Comme un chien de berger, Basel s'efforça de pousser vers la sortie le couple d'impudents. À la grande surprise de Morgaz, Lini s'en alla aussi. Voilà qui ne lui ressemblait pas. En temps normal, elle serait restée pour faire un sermon à la reine, comme si elle avait encore eu 10 ans. Sans comprendre vraiment pourquoi elle supportait ça, Morgaz eut pourtant envie de dire à la vieille nourrice de rester. Mais la porte se referma bientôt sur tout ce petit monde, la laissant avec des soucis hautement plus graves que l'éventuelle fierté blessée de Lini. Morgaz entreprit de réfléchir en faisant les 100 pas dans la pièce. Elrond exigerait des concessions commerciales, voire le sacrifice dont avait parlé Nial en échange de son aide. Les concessions commerciales ne la gênaient pas, mais elle craignait que Nial ait raison au sujet du nombre de soldats que le roi serait disposé à lui prêter. En revanche, les exigences de Nial seraient plus simples à satisfaire. Que voudrait-il ? Le libre accès au royaume à autant de Cas Blanches qu'il voudrait ? avec l'autorisation de tuer tous les suppôts des ténèbres démasqués, de monter des foules contre des femmes sans amis, accusées d'être des Aes Sedai et d'exterminer les véritables sœurs. Il pouvait même exiger une loi qui interdirait de canaliser et empêcherait les femmes de rejoindre la tour. Quand le ver serait dans le fruit, il serait possible, mais difficile, d'expulser les capes blanches après la victoire. Mais était-il nécessaire de laisser ce ver entrer dans le fruit, justement ? Quoi qu'en dise Nial, Morgaz aurait juré, enfin presque, que Randaltor était le dragon réincarné. Pourtant, les prophéties ne mentionnaient nulle part qu'il dirigerait des nations. Dragon réincarné ou imposteur, il n'aurait pas le royaume d'Andorre. Mais comment savoir ce qu'il en était vraiment ?
Entrez !
Lâcha Morgaz, dès qu'elle eut entendu quelqu'un gratter timidement à la porte. Le battant s'ouvrit pour laisser passer un jeune homme souriant en livrée or et rouge. Sur les bras, il portait un plateau où trônait une carafe d'argent pleine de ponche récemment rafraîchie. Morgaz était à demi attendu à Talanvor, mais d'après ce qu'elle vit, Lamgwyn montait la garde seul devant sa porte. Ou plutôt, il s'appuyait contre un mur, avachi comme un videur de taverne. La reine fit signe au jeune serviteur de poser son plateau, puis elle recommença rageusement à faire les 100 pas. Talanvor aurait dû venir la voir. Oui, il aurait dû. Bazel et Lamgwyn pourraient entendre des rumeurs dans le village le plus proche, mais ce ne serait que ça, des rumeurs, et peut-être bien lancées par Nial. Et ça valait aussi pour les serviteurs du palais.
« Majesté, puis-je vous parler ?»
Morgaz tourna la tête, étonné. Cet accent andorien. Le jeune type s'était agenouillé, son sourire bien moins assuré. Sans son nez cassé et mal remis en place, il aurait été plutôt agréable à regarder. Sur Lamgwyn, l'appendice nasal brisé avait quelque chose de martial, était une certaine vulgarité. Ce garçon donnait plutôt l'impression de s'être emmêlé les pinceaux et réceptionné sur le visage.
« Qui es-tu ? »
demanda Morgaz.
« Et comment es-tu arrivé ici ?»« Peitre Connell, Majesté. Je viens de marcher de Sheeran, au royaume d'Andorre. »
Peitre insista sur cette dernière information, comme si Morgaz avait pu l'ignorer. Agacée, elle lui fit signe de continuer.
« Je suis venu à Amador avec mon oncle Jen. Marchant à quatre rois, il espérait trouver ici des teintures du Tarabonne. Avec tous les troubles que connaît ce pays, elles sont très chères, et il espérait qu'ici... »
Voyant la moue de Morgaz, Peitre accéléra le rythme.
En apprenant que vous étiez au palais, Majesté, nous avons pensé aux lois en vigueur en Amadicia, à votre formation à la tour et... Eh bien, nous avons supposé que vous auriez pu avoir besoin d'aide pour vous évader. Et tu penses vraiment pouvoir m'y aider ?
Demanda Morgaz. Un plan imparfait, mais elle pourrait toujours filer vers le Gealdan. Un triomphe pour Talanvor. Non, il ne montrerait pas sa jubilation, et le résultat serait encore pire. Peitre secoua la tête.
Oncle Jen avait un plan. Mais maintenant que le palais grouille de cap blanche, je suis quand même venu vous voir, comme il me l'avait dit. Il trouvera une idée, Majesté. C'est un homme intelligent. Je n'en doute pas.
Ainsi, le Gealdan s'éloignait de nouveau.
Depuis quand es-tu parti d'Andorre ? Un mois ? Deux ?
Peitre acquiesça à la deuxième proposition.
Donc tu ne sais pas ce qui se passe à Kemlyn ?
Le jeune homme s'humecta nerveusement les lèvres.
Ici, nous habitons chez un homme qui a des pigeons. Un marchand qui reçoit des messages de partout. Y compris Kemlyn. Mais les nouvelles sont mauvaises, Majesté. Il faudra peut-être un ou deux jours, mais mon oncle trouvera une solution. Je voulais vous faire savoir que de l'aide était en chemin.
Eh bien, il allait s'agir d'une course entre Pedron Nial et le fameux oncle Jen. Et Morgaz aurait aimé ne pas savoir avec tant de certitude sur qui parier.
En attendant, tu pourrais me dire ce qui va si mal à Kemlyn. Je suis seulement censé vous avertir. Si je reste, mon oncle sera mécontent. Mais je suis ta reine, jeune Peitre, et aussi celle de ce Jen. Il ne t'en voudra pas d'avoir répondu à mes questions.
Peitre sembla sur le point de s'enfuir, mais Morgaz s'assit dans un fauteuil et entreprit de lui arracher les vers du nez.